Immaculate, bonjour. Vous êtes la toute première ce matin. Que Dieu vous bénisse. Jean-Gilbert Ozani, bonjour. J'espère que vous allez bien. Hermana Flori, Dios la bendiga, y a su esposo también. Almac, bonjour. Alors, on est le jeudi 10 février 2022. Natacha, bonjour. Bonjour Indirène. Et bonjour à la petite famille. Hello Sylvia, God bless you. Hello Pastor David, God bless. Hermana Susana, que Dios la bendiga. Alors une très chaude journée aujourd'hui, entre guillemets bien entendu. Il faisait 2 degrés quand on est sorti ce matin. Deux degrés à 5h du matin. Ça ne bougera pas trop aujourd'hui, je crois. Merci Almac. Gracias hermana Susana. Gracias hermana Flori. Bonjour à la belle-mère, soyez bénis. Aujourd'hui, on continue notre étude sur Matthieu 28. Si la semaine dernière, on a étudié principalement les versets 5 à 10, aujourd'hui, cette semaine, on s'est arrêté plutôt sur les versets 16 à 20. Indeed, indeed, Pastor David, that's what I did. And no socks in my running shoes. Bonjour Jude, bonjour Caridad, soyez bénis. Bonjour Lucie, soyez bénie. Bonjour Charlotte. Salut Daniel. Hier, on a eu notre toute première réunion en présentiel de l'année, puisque depuis lundi, on peut recommencer à accueillir des gens, bien entendu sous présentation du passeport vaccinal pour le moment. Mais on avait donc l'étude biblique hier soir et on était heureux de voir environ 7 ou 8 personnes qui étaient présentes. Donc ça faisait plaisir de voir ces gens qu'on n'a pas vus depuis l'année dernière en fait. Puisque la dernière assemblée avec public, c'était vers la mi-décembre. Donc, on était content de revoir nos bien-aimés. Et bien entendu, vous pouvez toujours vous inscrire pour l'assemblée de dimanche. Les premières inscriptions ont été confirmées hier. Donc, aujourd'hui, on continue le processus d'inscription. Vous pouvez le faire soit en appelant à l'église ou en écrivant par courriel, bien entendu, et en nous indiquant votre nom, le nom de toutes les personnes qui vous accompagnent, et en nous donnant soit un courriel ou un numéro de téléphone avec lequel on peut vous contacter pour confirmer les inscriptions. Dieu la bendiga, hermana Gladys. Bonjour Rachel, bonjour aux sœurs qui sont avec toi, sœur Auxilia, la sœur Mona, la sœur Chantal, soyez bénis. Bernadette, bonjour. Bernadette était une de ces personnes qui était là hier soir. Guy aussi s'est salué de loin. Mais il était là hier soir, bien heureux d'avoir vu le frère Guy. Encore trois petites minutes et puis on va débuter l'enseignement du jour. En fait, aujourd'hui, c'est la première journée de la semaine sans deux rendez-vous, puisque lundi, mardi et hier, on avait deux rendez-vous et que demain, on en a aussi deux. Donc, tout le monde est en congé ce soir. Ça tombe bien parce que Daphné travaille tard ce soir, donc je dois aller la chercher. Après l'heure du souper même. Je l'ai déposée à 6h ce matin au travail et je vais la chercher vers 19h30 si je ne m'abuse. Bonjour à mon père et à ma mère. Bonjour Alex, bon matin à toi aussi. Bon matin à Sandra s'il est à tes côtés. Marie-Huguette, bonjour. Salutations à Gaël et à Leïka. Bonjour Myriam, bonjour Donald. Donc, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans Matthieu au chapitre 28, on va commencer bientôt. Bonjour Babette, bonjour Andreas, bonjour Francine. Bonjour Gilles, on a eu Joanne qui s'est connectée ces derniers jours, je crois. Est-ce que c'est toi qui te connectais avec sa connexion à elle? Mais là, on est content de t'avoir aussi à toi. Donc, salutations à Joanne. Bonjour Suze et bonjour à la petite famille, bien que tu sois assurément toute seule devant ton écran aujourd'hui. Alors, prions pour débuter ce matin. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour la parole que tu nous permets de partager encore une fois cette parole qui est source de vie, d'encouragement, d'instruction et de transformation dans nos vies. À travers elle, Seigneur, tu nous permets d'être les serviteurs, les servantes que tu désires et à l'égard de l'enseignement qui est prodigué cette semaine, à travers ta parole, tu nous permets d'être les disciples que tu désires que l'on soit. Alors nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main, d'ouvrir notre entendement, de toucher notre compréhension et de faire dans nos vies ce que tu désires faire, en changeant et modifiant ce que tu veux voir, Seigneur, altérer, afin, Seigneur, que quoi que nous fassions, quoi que nous, où que nous soyons, quoi que nous disions, nous soyons dans ta parfaite et constante volonté. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, je relis pour vous le passage de cette semaine. On se rappelle que c'est en préparation de la thématique que l'on dévoilera dimanche quant à l'année 2022. Donc, on n'est plus qu'à quelques jours du dévoilement de cette thématique. Mais on a pris ces 2 dernières semaines pour se disposer, pour se préparer à entrer dans la volonté de Dieu et dans le plan qu'il a pour nous pour cette année 2022 en tant que congrégation. Donc on espère que vous serez nombreux dimanche pour écouter la prédication et voir quelle est la thématique de cette semaine, de cette année plutôt. Oui, le texte dans lequel on tire notre enseignement cette semaine contient le sens de cette thématique 2022. Mais on vous révélera toutes choses simplement dimanche matin. Alors je lis pour vous Matthieu 28, le verset 16. Matthieu 28, le verset 16. Et ce matin, on va s'arrêter essentiellement en grande partie sur les versets 19 et 20. Pas complètement, mais en grande partie. Alors le verset 16 dans Matthieu 28 nous dit: Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et je reprends les versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors que Dieu bénisse une fois de plus sa parole ce matin. Premier mot intéressant, c'est le terme « aller ». Donc le terme, le verbe « aller » à l'impératif, c'est Jésus qui s'est approché de ses disciples qui sont au rendez-vous sur cette montagne en Galilée où Jésus va faire son ascension vers le ciel. Et dans ses dernières paroles, il va prononcer ce que la tradition appelle la grande commission. Cette grande commission qui dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et en étant ses témoins, on le voit dans d'autres passages, de Jérusalem, en Judée, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le jour de son ascension, le dernier jour où Jésus va être corporellement sur cette terre, il est enlevé et avant de partir, il donne donc des recommandations à ses disciples. Il va leur dire lorsqu'il s'approche d'eux, et il se rend compte que bien que tout le monde se soit mis au sol, prostrés au sol pour l'adorer, et qu'ils se soient tous approchés de lui, il voit que certains d'entre eux doutent, et Jésus va avoir cette affirmation importante où il dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sur cette phrase qu'il va prononcer, comme on l'a vu hier, ça va transformer la vie de ses disciples. D'hommes qui étaient fuyants, d'hommes qui avaient quitté Jésus au moment le plus difficile de son ministère, lors de son arrestation, lors de sa mise à mort, certains qui ne se présentèrent pas pour l'honorer 3 jours plus tard, comme les femmes, elles l'ont plutôt fait afin de l'embaumer, mais qui se sont terrés dans une maison. Quelques semaines plus tard, ils reçoivent de la part de Jésus cette affirmation importante qui dit que il a tout pouvoir, toute puissance dans le ciel et sur la terre. Et c'est fort de cette puissance qu'ils vont effectivement revenir à Jérusalem afin que la promesse s'accomplisse où ils étaient appelés à devenir ses témoins depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et je vous rappelle que lorsque ils reçoivent cette grande commission, ils ne sont encore qu'en Galilée, donc à l'extrémité nord du pays. Ils vont rebrousser chemin malgré la peur, malgré la menace, malgré les attaques avec lesquelles on pourrait les attendre une fois arrivés à Jérusalem. Mais ils vont régresser jusqu'à Jérusalem, ils vont rebrousser chemin jusqu'à Jérusalem pour attendre la promesse du Saint-Esprit et le lancement officiel de l'Église primitive. Mais Jésus va leur dire « allez ». Le verbe « aller » à l'impératif, comme on l'a dit tout à l'heure, « allez » est fait de toutes les nations des disciples. « Allez », ça a un sens beaucoup plus profond que tout simplement le fait de se déplacer. Parfois, quand on regarde cela, on pense que c'est tout simplement un appel que Jésus lance à ses disciples pour leur dire de se déplacer de l'endroit où ils sont. Le sens de aller va plus loin. C'est le terme en grec poreuo, non, poreuo, qui s'écrit P-O-R-E-U-O, donc P-O-R-E-U-O, aller, et qui veut dire poursuivre un chemin, transférer ou suivre quelqu'un. C'est davantage que se déplacer. C'est poursuivre un chemin. En fait, ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, voilà, je m'apprête à partir. Je m'apprête à faire mon ascension vers le ciel et à m'asseoir de nouveau sur le trône éternel qui est mien. Mais je vous demande de poursuivre le chemin. Et que ce soit l'Église primitive ou nous qui en sommes les descendants quelques siècles plus tard, voire plusieurs siècles plus tard, en fait 2 millénaires plus tard, nous sommes encore en train de poursuivre ce même chemin. Nous sommes encore en train d'appliquer le poreuio, la poursuite du chemin qui a été initié et qui a été lancé par Jésus. On n'est pas en train de faire une autre histoire. Nous ne sommes pas en train de créer une autre histoire. Nous sommes simplement la suite de ceux qui nous ont précédés et chemin qui a été initié par Jésus à travers la croix, à travers la mort et la résurrection. En fait, on assiste, lors de l'ascension de Jésus, au balbutiement de l'Église primitive, au balbutiement de cet organe qu'est le corps de Christ qui allait changer, transformer le cours de l'histoire de l'humanité et qui allait être l'instrument par lequel le message de Christ et le message de l'Évangile se propagerait partout autour du monde. Malheureusement, il y a bien des chrétiens qui se croient comme le dernier coca du désert, voire comme le premier coca du désert aussi. L'expression dernier coca du désert veut dire il se croit comme étant l'exception, le dernier bien-être qu'on pourrait avoir dans une terre désertique en ayant une boîte ou une canette de coca ou une bouteille de coca en pleine chaleur torride. Je rajoute, non seulement on n'est pas les derniers, mais on n'est pas non plus les premiers. On s'inscrit dans un ensemble que représente l'Église et que représente le corps de Christ. Nous sommes aujourd'hui les conséquences de frères et de sœurs qui nous ont précédés. Aucun d'entre nous n'est la création unique de cette génération-ci. Aucun d'entre nous n'est la création unique de nos propres efforts et de nos propres décisions. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce que ça a été transféré et transmis d'une génération à l'autre à travers les différentes couches qui ont constitué l'Église jusqu'à ce jour. Et voilà un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je pense qu'il est important de remercier le Seigneur pour tous ces grands hommes de foi et toutes ces grandes femmes de Dieu qui se sont succédées jusqu'à notre génération et qui ont fait en sorte que le message de l'Évangile nous parvienne à nous aujourd'hui, en 2022, dans des contrées bien éloignées de la Judée ou de Jérusalem initiale. On se rappelle que Jésus, dans cette grande commission qu'il mentionne dans d'autres évangiles, va leur dire, faites de toutes les nations des disciples, il va leur dire d'être des témoins depuis Jérusalem. Donc il a fallu à un moment donné que les disciples acceptent, bon gré, mal gré, soient disposés ou forcés de quitter le bien-être et le confort de Jérusalem pour s'étendre dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, afin de nous atteindre, nous, aujourd'hui. Alors, ça serait égoïste de croire que nous sommes la création de ce siècle et d'oublier nos frères et nos sœurs qui, dans bien des cas, ont eu à souffrir et à passer à travers des tribulations qu'aucun d'entre nous ne connaîtra de son vécu. Hier, le pasteur Sergio touchait aussi une thématique qui m'est très chère lors de l'étude biblique d'hier soir, où il parlait de l'Église persécutée. Et en se disant, mais lorsqu'on regarde nos frères et nos sœurs qui, au risque et au péril de leur vie, manifestent encore aujourd'hui leur foi, on se rend compte que nos petits tracas très occidentaux et très contemporains sont peu de choses à comparer avec ce que plusieurs et nombreux de nos frères et de nos sœurs peuvent affronter et subir aujourd'hui. Donc, on est appelé à poursuivre dans cette marche qui a été initiée par Jésus et qui a été poursuivie par l'Église primitive, donc l'Église du premier siècle, et qui s'est rendue jusqu'à nous aujourd'hui. Mais quel était ce mandat? Il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Faites de toutes les nations des disciples. Il y a non seulement ici un mandat, mais aussi une attente de la part du maître de la moisson. Lorsque Jésus va dire à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples, il est en train de leur dire, voici le mandat que je vous donne. Et lorsqu'on donne un mandat à quelqu'un, c'est donc qu'on a aussi des attentes envers lui. Trop de personnes considèrent le mandat de Dieu comme une option. Trop de personnes considèrent le fait de travailler à la tâche qui nous incombe comme tout simplement optionnel. Christ veut à tout prix que je sois sauvé, mais après ça, ça compte très peu que je travaille ou que je ne travaille pas. C'est absolument faux. C'est un évangile de paresse. Et voilà pourquoi j'ai beaucoup de difficultés avec certaines doctrines qui sont apparues au cours des siècles, où il n'y a pratiquement aucun effort à faire pour se maintenir dans la bonne grâce de Dieu et se maintenir dans le salut qui nous a été accordé, comme si de toute éternité j'étais appelé à être sauvé, puis l'autre était appelé à être perdu. Alors que je témoigne ou que je ne témoigne pas, ça a bien peu d'effet, puisque de toute manière, ceux qui doivent être sauvés seront sauvés et ceux qui doivent être perdus doivent être perdus. J'ai beaucoup de misère avec cette doctrine, puisque Jésus va dire « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». S'il dit de faire de toutes les nations des disciples, c'est qu'il y a donc la possibilité de faire de toutes les nations des disciples. Puisqu'il nous a envoyé témoigner, c'est donc parce qu'il y a possibilité pour tous ceux qui entendraient ce message de devenir disciples de Christ. Sinon, il aurait dit d'aller trouver ceux qui ont été particulièrement appelés à être des disciples. Nous avons tous été appelés, invités, exhortés à devenir disciples de Christ. Et par conséquent, lorsque le Seigneur lance cet appel à l'Église de faire de toutes les nations des disciples, si je ne reçois pas cet appel et si je ne l'applique pas, je ne suis pas en train de faire la volonté de Dieu. Il est du travail de tout croyant de comprendre tout d'abord qu'il est un disciple, comme on l'a vu en début de semaine, particulièrement lundi. On a vu que chacun d'entre nous est appelé à être un disciple. Nous ne sommes pas tous appelés à être des apôtres. Nous ne sommes pas tous appelés à être des prophètes. Nous ne sommes pas tous appelés à être des pasteurs, des enseignants ou des évangélistes. Mais nous sommes tous appelés à être des disciples. Et dans le mandat que Jésus donne à ses disciples, c'est de faire de toutes les nations d'autres disciples. Aujourd'hui, nous sommes disciples de Christ parce que génération après génération, des hommes... Je vais prendre une gorgée. Des hommes et des femmes ont reçu, embrassé et exécuté le mandat qui leur était donné par Jésus de devenir eux-mêmes des disciples et de surcroît de produire eux aussi des disciples comme deuxième, troisième, quatrième, xème génération consécutive. Alors comprenons une chose, faire des disciples est dans le mandat tout à fait précis de tout disciple. Ce n'est pas juste les évangélistes qui doivent provoquer des disciples. Ce ne sont pas que les pasteurs qui doivent mettre bas ou donner naissance à des disciples. Ce n'est pas simplement que des apôtres qui devraient créer des disciples. Nous sommes tous appelés à donner naissance, à amener à la vie d'autres disciples. C'est le mandat de tous et de chacun de faire de toutes les nations des disciples. Et si Dieu nous a donné ce mandat, c'est donc qu'il s'attend à ce qu'on remplisse ce mandat. Je vous en parle assez régulièrement de cet homme qui me disait avoir été heureux d'être appelé par Christ, mais n'avoir jamais répondu à son appel. Ça, c'est comme de savoir que la personne la plus importante de ma vie me demande de faire une chose, je suis heureux que cette personne ait tellement confiance en moi et tellement d'espoir en moi qu'elle me confie une tâche et de la regarder en lui disant « Merci beaucoup, mais je ne le ferai pas. » À chaque fois que je refuse d'embarquer dans le mandat de produire des disciples, à chaque fois que je ne m'attelle pas à cette tâche de produire des disciples, je suis en train de ne pas remplir les attentes de mon Sauveur et de mon Seigneur. Donc, une des caractéristiques, puisque c'est de cela qu'on parle cette semaine, les caractéristiques du disciple qui cherche à plaire à Christ ou à son Maître, c'est donc de recevoir le mandat, mais bien entendu, d'appliquer ce mandat. Recevoir le mandat du disciple et répondre aux attentes du Maître. Par la suite, il continue en disant « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je suis convaincu qu'il y avait plusieurs personnes d'entre vous qui lisaient ce passage cette semaine et qui disaient « J'ai hâte de voir ce que le pasteur Florent va dire sur la Trinité, la dualité ou l'unicité. » Je ne vais même pas parler de cela. En fait, lorsque Jésus dit à ses disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », il est en train de parler autre chose que de la Trinité, la divinité, l'unicité, la dualité. Il parle d'autre chose. Quand on parle de baptiser, c'est le terme immerger, submerger, purifier, laver. Mais c'est surtout le fait de baigner quelqu'un ou une chose dans quelque chose. Et il dit « baptisez-les au nom ». au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au nom, c'est le terme onoma. Onoma en grec, donc O-N-O-M-A. Onoma. Et onoma, c'est de là que vient le terme notamment onomatopée. Une onomatopée, c'est un bruit qu'on fait, ou l'imitation d'un bruit, ou c'est la reproduction d'un bruit. Si on dit qu'un chien aboie, l'onomatopée, ça serait wouf wouf. Donc quand je fais wouf wouf, je suis en train pas d'aboyer, mais en train de faire l'onomatopée, donc l'imitation du bruit que ferait un chien qui aboie. Lorsqu'on parle de onoma, on parle de l'appellation exprimant tout ce que représente une chose. Wouf wouf représente l'appellation ou toute la représentation d'un aboiement. Assurément limité, parce que je n'ai pas les cordes vocales d'un chien pour aboyer, parce que je n'ai pas la force vocale d'un chien pour aboyer, parce que je n'ai pas la justesse dans le son. Et si vous allez d'un pays à l'autre, quand vous regardez même l'onomatopée du coq, en français, le son du coq, c'est cocorico. Lors, j'écoutais un reportage dernièrement, et en Italie, en italien, le son du ou l'onomatopée d'un coq, c'est kikiriki. En français, cocorico. En italien, kikiriki. On se rend compte que c'est deux onomatopées, deux imitations d'un son, du cri ou du chant du coq, mais qui sont les deux aléatoires, imparfaites, qui sont simplement la représentation. Ici, lorsque Jésus va dire de baptiser tout le monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est en train de dire « baignez-les totalement dans tout ce que représente le Père, le Fils, le Saint-Esprit ». Et lorsqu'on combine effectivement ces trois manifestations de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, on a effectivement la toute représentation de ce que Dieu est. Donc le Père, celui qui crée, celui qui suscite, celui duquel on tire l'origine. Le Fils, celui qui est le descendant de cette lignée, mais qui est assurément le représentant ou la représentation du message de grâce, de salut et de régénération de l'humanité. Le Saint-Esprit, ce qui est la représentation de l'aide, de l'assistance, de la puissance qui se manifeste encore aujourd'hui à travers l'ensemble de l'Église. Ce que Jésus était en train de dire à ses disciples, en fait, c'est baptisez-les, baignez-les totalement dans la plénitude de ce que le Maître représente. Jésus était Dieu fait homme. Était donc la représentation ici-bas sur terre de la plénitude même de Dieu. Et il disait maintenant à ses disciples, au même titre où j'ai fait de vous mes disciples, je vous demande de trouver d'autres hommes que vous baignerez totalement dans mon enseignement, dans mes préceptes, dans ma pensée, dans mes recommandations, dans tout ce que je suis, depuis ma mort, ma résurrection et ma présence à tous les jours avec vous. L'important pour toi et pour moi, c'est de comprendre qu'en tant que disciple, je dois baigner les prochaines générations dans la toute manifestation, dans la toute plénitude de mon Maître. Permettre aux prochaines générations d'expérimenter pleinement tout ce que Christ représente, tout ce que Dieu représente encore et toujours et éternellement. Ne pas priver l'Église, ne pas priver cette nouvelle génération constante de disciples de quelques parties, de quelques manifestations, de quelques facettes de ce que représente Christ, mais d'avoir tout reçu nous-mêmes et aussi de tout donner. Le mandat de faire des disciples était de faire des disciples dans la plénitude de notre Maître, afin que toutes les générations qui suivraient les unes après les autres puissent entrer pleinement dans la totale et dans la parfaite plénitude de notre Maître. Dans la parfaite plénitude du Maître. On se rappelle qu'on a souvent parlé de l'apprenti cuisinier notamment. L'apprenti cuisinier qui reçoit les instructions du Maître. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'un cuisinier qui était très célèbre en France, qui s'appelait Bocuse, Paul Bocuse, et qui était probablement dans l'ère moderne le plus grand des chefs cuisiniers. Aujourd'hui, il est décédé. Mais Paul Bocuse avait des disciples. Et ses disciples poursuivent l'œuvre de ce chef cuisinier en enseignant les techniques, la pensée, la culture culinaire et la façon de faire et les procédures et la philosophie culinaire de ce Paul Bocuse, même si on est peut-être rendu aujourd'hui une deuxième, une troisième génération après ce Paul Bocuse. Alors lorsqu'on parle de Jésus et de nous qui sommes des disciples, nous sommes appelés à amener l'ensemble des générations qui nous succèdent dans cette plénitude que représente Christ. Nous avons tout reçu et nous devons aussi tout donner à cette prochaine génération. Et enfin, et on va terminer avec ce passage, puisqu'on est déjà pratiquement à terme dans notre temps, il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alors, non seulement de rentrer dans la plénitude de notre Maître, dans tout ce qu'il représente, dans sa toute-puissance, dans son omniscience, dans son omniscience, dans tout ce qu'il est, mais de surcroît à ça, la plénitude va aussi dans la plénitude de tous ses commandements, de tous ses préceptes. Malheureusement, l'Église contemporaine a parfois, génération après génération, a parfois cherché à éluder ou à occulter certaines parties de l'Évangile ou certaines parties de la parole de Dieu. En disant ça, c'est trop vieux, ça date d'une autre époque, ou ce n'est plus bon pour nous aujourd'hui. Il n'y a pas de changement chez Dieu. Il n'y a pas de transformation chez Dieu. Il a toujours été parfait, il reste parfait, et la Bible nous dit qu'il n'y a chez lui pas même l'ombre d'un changement. L'ombre d'un changement, ce n'est pas un changement, c'est juste l'apparence d'un changement. Il n'y a même pas cette apparence d'un changement chez Dieu. Ça veut donc dire que tout ce qui était vrai autrefois est toujours vrai aujourd'hui. Que tout ce que Dieu bénissait autrefois, il le bénit encore aujourd'hui. Mais en contrepartie, que tout ce qu'il maudissait autrefois, il le maudit encore aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que la société changerait, ce n'est pas parce que la société appellerait certaines choses qui étaient péchées autrefois, les appellerait comme bien fondées aujourd'hui ou une bonne chose aujourd'hui, que Dieu appelle nécessairement cette chose bonne. Ce que Dieu avait proscrit autrefois, il le proscrit encore aujourd'hui. Ce que Dieu défendait autrefois, il le défend encore aujourd'hui. En contrepartie, ce que Dieu bénissait hier, il le bénit encore aujourd'hui. Son système de valeurs n'a pas changé. Sa pensée n'a pas changé. Ses attentes n'ont pas changé. Ses prescriptions n'ont pas changé. Si ses prescriptions et ses commandements avaient changé, alors il y aurait injustice par rapport à certaines générations de l'humanité. Si Dieu autrefois maudissait le vol, le meurtre, mais qu'aujourd'hui il changeait sur cette notion de vol et de meurtre, ben il y en a qui auraient été condamnés il y a 2-3 siècles, voire un millénaire ou 1500 ans ou 2000 ans en arrière, ils auraient été condamnés et aujourd'hui ils ne seraient plus sous la réprimande de Dieu. Si Dieu avait changé ses commandements, alors il y a des choses qui étaient condamnées à l'époque de Moïse qui ne le seraient pas aujourd'hui. Non, Dieu n'a pas changé. Ce qu'il condamnait à l'époque de Moïse, il le condamne aujourd'hui aussi. Ce que ses commandements prescrivaient autrefois, sa grâce le prescrit encore aujourd'hui. Ce que ses commandements punissaient autrefois, sa grâce ne le couvre pas aujourd'hui. Alors il est important pour toi et pour moi de savoir aussi non seulement embrassé la plénitude du Maître et non seulement amené ces nouvelles générations de disciples à embrasser la plénitude du Maître, mais aussi à embrasser la plénitude des exigences de ce Maître. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il est de notre devoir, et voilà pourquoi même en tant que pasteur, lorsque c'est un peu douloureux d'aborder certaines thématiques, parfois on monte sur la tribune dimanche matin en sachant d'avance que ce qu'on s'apprête à dire va être difficile à recevoir. Mais il est de notre devoir de ne pas occulter certaines règles, certaines procédures, certaines prescriptions de Dieu, parce que ce faisant, on volerait cette nouvelle génération et les générations futures d'une part de la vérité que Dieu nous demande de partager. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu qu'en tant que disciples, nous étions sommés de produire des disciples. Je dis parfois, ce n'est pas le berger qui met bas des brebis. Ce sont les brebis qui donnent naissance à d'autres brebis. Aujourd'hui, on regarde les nouvelles générations de chrétiens, puis certains d'entre nous, on pense que c'est simplement Dieu qui fait le miracle et qui va donner naissance à des brebis. Le berger n'a jamais pondu une brebis. La poule pond des œufs qui deviennent des poussins. La brebis donne des brebis. C'est la brebis qui met bas des brebis. Alors, c'est de ton devoir, de mon devoir à moi, de produire des brebis et de ne pas aller contre nature. Il est donc de mon devoir, je suis sommé par Christ, sommé par mon maître, de produire d'autres disciples. Et quand je produis ces disciples, je leur enseigne à embrasser le mandat qui leur est donné par Christ, de faire de toutes les nations des disciples, mais non seulement de l'embrasser, mais aussi de l'exécuter, parce que Christ a des attentes. Par la suite, il nous est aussi enseigné qu'en produisant ces disciples, nous puissions les amener à embrasser toute la plénitude de Dieu, toutes les manifestations de Dieu. Et enfin, embrasser la plénitude des exigences de Dieu. Non pas une partie de l'évangile, mais l'ensemble de l'évangile. Non pas une partie des prescriptions de Dieu, mais l'ensemble des prescriptions de Dieu. De ne pas tronquer, de ne pas arracher, de ne pas couper une partie des prescriptions, tout simplement parce qu'on sait que celle-ci, à cette époque-ci, dans cette génération-ci à laquelle nous appartenons, ce sont des prescriptions qui sont mal vues, mal reçues, mal perçues, mal aimées. Les comptes, nous ne les rendons pas à cette génération. Les comptes, nous ne les rendons pas à nos semblables, à ces humains pécheurs comme nous. Les comptes, nous les rendons à Christ. Et Christ s'attend à ce qu'on produise des disciples dans toutes les nations, en ce qu'on leur permette d'embrasser la plénitude de ce que représente notre Maître, et enfin, de les amener à embrasser la plénitude ou l'entièreté des exigences de notre Maître. Alors prions. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci pour ta grâce. Merci d'avoir été présent parmi nous. Une parole, Seigneur, qui vient remettre les choses au clair, qui vient remettre les choses la portée totale de notre mandat de faire des disciples de toutes les nations, d'aller trouver tout homme, toute femme et de les exhorter à la paix avec Christ et à devenir disciples de notre Maître, à les amener à embrasser la plénitude de ce que tu représentes et non pas une partie de ce que tu es, et à embrasser la de toutes tes exigences, l'entièreté de tes préceptes et non pas un évangile tronqué de certaines parties qui ne nous satisfont pas autant, qui ne nous plaisent pas autant ou qui font peut-être un peu plus mal à recevoir. Alors merci Seigneur de nous donner cette hardiesse, de nous pousser vers l'avant afin que nous puissions, comme nous l'avons bénéficié des générations qui nous ont précédés, que nous puissions aussi être un agent de bénédiction pour les générations qui nous succéderont, en ayant créé parmi toutes ces nations des disciples pour Christ. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et merveilleux nom du Maître que tu es, le seul, l'absolument seul Maître, Christ Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On vous rappelle deux annonces importantes. Demain, on a deux rendez-vous. Donc, demain matin et demain soir. Et c'est une journée de jeûne et de prière le vendredi. Donc, on vous invite à être dans le jeûne si vous le voulez et si vous le pouvez. On aura donc rendez-vous demain matin pour la dernière bénédiction matinale. Puis, demain soir, 19h, pour le temps d'intercession et de prière. De surcroît à ça, on vous rappelle que les inscriptions pour l'Assemblée de dimanche ont cours depuis hier. On a commencé à accueillir des gens lors de nos réunions. Ça prend toujours, malgré tout, de présenter un passeport vaccinal. C'est une exigence de la santé publique. Alors, ceux qui le peuvent, ceux qui sont dûment vaccinés, vous pouvez donc vous joindre à nous ce dimanche pour l'Assemblée. Pour ce faire, il faut être âgé de plus de 5 ans et nous écrire ou nous appeler. Écrire, c'est par courriel à secrétariat-eajc@commercial.gmail.com. secrétariat-eajc@commercial.gmail.com. Pas d'accent, bien entendu, dans l'adresse électronique. Donc, vous nous écrivez, vous nous donnez votre nom, le nom de toutes les personnes qui vous accompagnent, et puis vous nous donnez un courriel ou un numéro de téléphone dans lequel on peut vous contacter pour confirmer votre présence parmi nous. Alors, on vous rappelle les deux annonces. Demain, deux réunions, 8h30 demain matin et 19h demain soir. Et enfin, inscriptions qui ont cours jusqu'à demain midi. La dernière journée pour s'inscrire pour le culte de dimanche, c'est demain d'ici midi. Donc, on vous invite à être nombreux. Vous êtes déjà plusieurs à avoir laissé vos noms, que ce soit sur le répondeur ou par courriel. Et on vous invite à poursuivre et inviter des frères et des sœurs autour de vous. Dites-leur, hey, l'Église a recommencé à accueillir des gens. Si tu as ton passeport vaccinal, viens, on va célébrer le Seigneur ensemble. Ça faisait plaisir de voir les quelques visages qui étaient là hier. Et puis, ils étaient tous rayonnants d'être de retour dans la maison du Seigneur. Donc, on vous invite à être là ce dimanche. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Soyez des disciples et soyez des faiseurs de disciples. Que Dieu vous bénisse.